Chers auditeurs, bonjour. Je suis très heureux aujourd'hui de vous parler d'une femme de génie, d'une grande figure de la psychanalyse, disparue il y a déjà une trentaine d'années. Une femme qui fut mon maître, mais aussi mon amie, Françoise Dolto. Je suis très ému de vous parler d'elle. Mais qui était Françoise Dolto? C'était un médecin, pédiatre et psychanalyste passionné par l'enfant qu'elle considérait comme une personne à part entière. Passionné aussi par l'importance du corps dans la vie émotionnelle de l'enfant. Et passionné enfin par l'authenticité avec laquelle nous, les adultes, nous devons parler à nos enfants. Elle disait souvent « Ne mentez pas à un enfant. Son inconscient connaît toujours la vérité. » Après vous avoir parlé de Françoise Dolto, j'aurai plaisir à répondre, comme d'habitude, à vos questions suscitées par l'écoute de nos podcasts en ligne sur notre page « L'inconscient ».
L'inconscient, avec le docteur Nasio, sur France Inter.
Aussitôt que l'enfant pose la question, il faut lui répondre pour de vrai et la vérité. Qu'il la comprenne ou pas, c'est dans ses oreilles, un jour il posera une question plus précise. Voilà ce que je crois.
Je voudrais vous raconter en détail la manière dont Dolto travaillait avec les enfants qui souffrent, en particulier lors des dernières années de sa vie, lorsqu'elle recevait ce jeune patient dans sa consultation de la rue Cujas. Je voudrais vous faire découvrir le secret, oui, le secret de Dolto pour soigner et guérir les enfants. Mais que se passait-il dans le cabinet de la rue Cujas? Je garde un vivant souvenir de ces séances de psychanalyse incomparables. Dolto n'était pas seule avec l'enfant. Elle était entourée d'un petit groupe de jeunes psychanalystes dont j'ai eu la chance de faire partie. De ces années, je conserve précieusement le cahier bleu où j'ai noté sur les vifs les paroles les plus remarquables que Dolto adressait à ses jeunes patients dans les moments très intenses des séances. En relisant ces jours-ci le cahier bleu, l'idée m'est venue de vous faire entendre quelques-unes de ces paroles marquantes qui produisaient des effets spectaculaires tant sur les jeunes patients que sur nous-mêmes, psychanalystes qui étions présents. Mais avant de vous faire vivre ces instants uniques où Dolto délivre son interprétation, je voudrais vous raconter comment s'est déroulée la consultation qui se tenait à Paris entre 1985 et 1988. François Dolto y recevait tous les vendredis matins des très jeunes enfants en grande difficulté psychologique. Après avoir assuré pendant 30 ans sa consultation de pédopsychiatrie à l'hôpital Trousseau, Dolto avait tenu à reprendre ce travail, mais consacré cette fois aux seuls enfants d'une pouponnière de la proche banlieue. La pouponnière est un internat dans lequel vivent de jeunes enfants victimes d'abandon ou de maltraitance. Ces enfants, âgés de quelques mois à 4 ans, retirés de leur famille d'origine, sont porteurs d'un passé douloureux, voire tragique. Ils viennent à la consultation pour des troubles mentaux, souvent graves. Les deux idées inédites de François Dolto, qui ont rendu sa consultation si originale, sont d'abord l'initiative de psychanalyser des enfants de pouponnières, première rareté, et ensuite d'introduire un groupe de thérapeutes au sein même des cures, qui y participent activement. En effet, les psychanalystes qui assistaient à la consultation, bien que jeunes, n'étaient pas des débutants ni des observateurs passifs. Nous n'étions pas non plus des psychanalystes travaillant exclusivement avec des enfants. Au contraire, Madame Dolto préférait ouvrir sa consultation à des praticiens exerçant déjà auprès d'adultes. Pour elle, il était indispensable d'exercer notre métier avec des patients adultes avant de se confronter au travail bien plus exigeant et subtil de psychanalyser les enfants. Moi-même, j'ai pu dire récemment combien la pratique avec les enfants était beaucoup plus difficile que celle avec les adultes. Justement, la grande erreur est de croire que les enfants sont faciles à écouter, qu'il suffit de jouer ensemble pour produire un effet thérapeutique. Il ne faut pas jouer pour jouer, il faut jouer pour analyser. Il ne faut pas se laisser leurrer par la facilité avec laquelle le jeune patient aime jouer avec vous. Nous risquons alors de déconcentrer notre attention du but principal, capter l'inconscient de l'enfant qui se trouve devant nous, ressentir sa douleur et le soulager. C'est ça le but principal. En somme, il faut être un excellent psychanalyste d'adulte pour devenir un bon psychanalyste d'enfant.
L'inconscient avec le docteur Nasio.
Mais revenons à la consultation de la rue Cujas. Je voudrais vous décrire maintenant la salle où Françoise Dolto recevait ses petits patients. Madame Dolto et l'enfant étaient assis l'un en face de l'autre, de chaque côté d'une petite table. Parfois, le jeune patient était accompagné d'une puéricultrice. Derrière Dolto s'asseyaient les psychanalystes participants. Les petits patients arrivaient à la consultation toutes les demi-heures. Les séances étaient entrecoupées d'une pause durant laquelle nous échangeions avec François Dolto nos impressions sur le dialogue qui venait d'avoir lieu avec l'enfant. Sur la petite table étaient posés différents objets que je tiens à vous détailler. On y trouvait des feuilles de papier, un étui de gros feutre, un bol contenant de la pâte à modeler, une vieille boîte à biscuits en métal remplie de colifichets, telle une règle en bois, des ciseaux à bout rond pour ne pas couper, un vrai trousseau de clés, une chaînette, deux petits couteaux, l'un à beurre pour le modelage et l'autre plus tranchant, un petit miroir, un sifflet, et des crayons de couleur à la mine toujours cassée que François Dolto taillait souvent avec un opinel qu'elle sortait de son sac à main. Avec ce geste de tailler le crayon, elle indiquait à l'enfant que chacun devait s'occuper de la tâche qui lui revenait. Elle l'incitait ainsi à se consacrer à son propre dessin ou modelage. Je pense ici à une petite patiente, Laetitia, qui souffrait de ce qu'on appelle une pseudo-débilité. C'est-à-dire qu'elle faisait toujours le bébé alors qu'elle avait déjà 5 ans. Elle sollicitait sans cesse l'attention de Madame Dolto et lui réclamait le commentaire de ses dessins. François Dolto prenait alors les crayons à la mine cassée et commençait à les tailler. Quand Laetitia devenait trop insistante, elle lui répliquait « Écoute, fais ton dessin. Chacun fait ce qu'il a à faire. Moi, je taille. Toi, tu dessines ton rêve. Nous, les analystes qui assistions à la consultation, étions des intervenants actifs dans la cure de l'enfant. Actifs lorsque, par exemple, le petit patient, encouragé par Madame Dolto, s'adressait à l'un de nous. Aussi, au moment d'entrer dans la salle et d'en sortir, l'enfant avait l'habitude de nous dire « bonjour » et nous lui répondions. Souvent, Françoise Dolto, en accueillant un enfant qui venait pour la première fois, lui expliquait notre présence en ces termes. « Tu vois, disait-elle à l'enfant, ces messieurs et ces dames vont travailler avec toi pour que tu deviennes heureux. »
Au clair de la lune, mon ami Pierrot.
Il nous arrivait aussi, à tel moment d'une séance et à la demande de Dolto, de chanter en chœur une comptine, comme « Au clair de la lune ». Quelquefois, c'était les hommes uniquement qui devaient chanter. Je me souviens, Dolto disait « Non, non, seulement les hommes ». Quelquefois, d'autres fois, c'était tous les voix qui résonnaient à l'unisson. Mais dans tous les cas, gagné par le frisson de cette musique partagée, nous nous sentions en prise directe avec l'inconscient de cet enfant qui était là, devant nous, surpris de nous entendre. Comme si Dolto, en nous demandant de chanter, savait qu'à cet instant précis de la science, nos voix provoqueraient chez l'enfant les sensations apaisantes qu'il n'avait pas vécues bébé. Certainement, ce petit garçon ou cette petite fille n'avait jamais connu la chaleur suscitée par la douceur d'une voix maternelle, par l'autorité d'une voix paternelle et surtout la chaleur suscité par le fait d'entendre les deux voix parentales, celle du père et celle de la mère, qui se répondraient dans l'imaginaire d'un enfant épanoui. Voilà pourquoi je dis que nous étions des psychanalystes participants. Nous étions plus que des spectateurs d'une séance d'analyse. Nous en faisions partie. Et parfois même, nous étions comme des conseillers de Dolto. Oui, des conseillers. Car il arrivait que Françoise, au milieu d'une séance, écoutez ça, ne comprenne pas ce qui se passe chez l'enfant. Et envahie par le doute, s'interroge tout haut et nous interroge, nous, les psychanalystes participants, comme si nous étions un ultime recours. À ces propos, je me souviens du cas d'Aïcha, du cas poignant d'Aïcha, sur lequel je vais souvent revenir aujourd'hui. Aïcha était une petite fille gravement psychotique, gravement malade, que Dolto a suivie pendant 2 ans. À chaque séance, Aïcha, inconsolable, pleurait sans discontinuer. Elle entrait dans la salle en pleurant, pleurait durant toute la séance et repartait toujours en pleurant. Avant même qu'elle ne franchisse la porte du 21 rue Cujas, nous l'entendions déjà dans la rue hurler sa douleur, au point de nous exclamer « Oh là là, c'est l'heure d'Aïcha !» Incontestablement, elle était le patient le plus difficile à suivre, mais aussi à supporter. Le caractère pénible de ces séances était tel que 2 collègues de notre groupe, ébranlés par tant de souffrances chez un petit être, ont préféré quitter définitivement la consultation. Aussi, lors d'une séance durant laquelle Aïcha, en plein désarroi, s'était jetée par terre dans un coin de la salle, comme elle le faisait souvent, face contre terre, en criant et en martelant le carrelage avec sa tête, Dolto se lève de sa chaise, quitte sa table, se dirige vers le fond de la pièce, s'agenouille à côté de l'enfant, essaye en vain de l'apaiser et démuni, lui avoue. Je ne sais plus quoi te dire pour t'aider. Puis, sans cacher son impuissance, elle se tourne vers nous, nous regarde, hausse les épaules, ouvre ses mains comme pour s'excuser de ne savoir que dire à l'enfant et nous demande à nous de lui souffler le mot qui arrêterait la douleur de l'enfant. C'est une image déchirante que je n'oublierai jamais. Bon. Bon, je continue. Vous comprenez pourquoi Dolto a été un maître pour beaucoup d'entre nous. Parce qu'elle n'avait pas peur de se montrer défaillante. Elle faisait confiance à son ressenti, fût-il le ressenti d'une faiblesse. L'essentiel de ce que Dolto m'a appris, c'est de faire confiance à notre ressenti de psychanalyste, de travailler avec notre ressenti, à condition, bien entendu, que ce ressenti soit sans cesse affiné par l'expérience et affermi par l'étude de la théorie. Or, la même Françoise Dolto, capable d'avouer son impuissance, était aussi capable de trouver le mot le plus juste, d'avancer le mot qu'il faut, au moment où il le faut, et réussir à soulager son patient. À la petite Aïcha, qui dans une autre séance pleurait toujours en se frappant le front contre terre, Dolto ne se montrera pas impuissante. Au contraire, elle lui dira cette phrase qui est pour moi le modèle d'une parole capable de chasser de la tête du patient l'idée mortifère qui le tourmente. La parole que Dolto a adressée à Aïcha a été la suivante. Je me souviens très bien et je l'ai écrit dans mon cahier bleu. « Tu pleures comme un bébé malheureux, malheureux comme ta maman. Elle aussi est un bébé malheureux. » Je me souviens très bien qu'à partir de ce jour, Aïcha a cessé de pleurer et de se faire mal. J'ai souvent pensé que la parole de Dolto avait permis à Aïcha de comprendre, non pas intellectuellement, mais émotionnellement, que sa mère ne l'avait pas rejetée par mépris, mais par immaturité, par incapacité de s'occuper d'un enfant, tant elle était elle-même un bébé triste. Je voudrais m'arrêter un instant sur cette intervention de Dolto, que je tiens pour une interprétation efficace de la souffrance inconsciente de la petite Aïcha. Je pense qu'en martelant compulsivement le sol avec sa tête, Aïcha est sous l'emprise d'une scène imaginaire qu'elle joue sans en avoir conscience. C'est une scène qu'Aïcha ne voit pas, n'est pas consciente, mais qui la rend malade. Dans cette scène imaginaire, sa maman, une mère qui dans la réalité avait été toxicomane et avait rejeté son enfant issu d'un viol, cette mère, disais-je, est vécue imaginairement par Aïcha comme une mère qui lui hurle « Va-t'en, disparais de ma vie !» En frappant violemment le sol avec sa tête, Aïcha ne fait qu'obéir aveuglement aux ordres d'une mère vécue comme un monstre effrayant. Eh bien, Dolto, en avançant sa parole, neutralise la scène imaginaire qui rend malade Aïcha. C'est comme si Dolto, en lui disant que sa mère est aussi un bébé malheureux, montrer à Aïcha que la mère monstrueuse qui hurle dans sa tête n'est pas sa mère réelle. S'il est vrai que sa mère réelle l'a délaissée, c'est par un grand dénuement et non par cruauté. Sachez que la cure d'Aïcha s'est terminée positivement. Peu à peu, au lieu de se jeter par terre et se faire mal, Aïcha consentit à s'asseoir à la petite table et accepta le plus souvent en silence de dessiner sa douleur. Après 2 ans de cure, débarrassée des monstres qui la condamnaient, pacifiée, elle était devenue une petite fille ordinaire, animée par la vie. Devant une intervention aussi efficace telle que « Tu pleures comme un bébé malheureux, malheureux comme ta maman, elle aussi est un bébé malheureux », disait Dolto, une question se pose, une question valable pour toutes les interventions notables de Dolto auprès des enfants qu'elle recevait. À quelle source puisait-elle son inspiration ? Comment des mots si simples, si imagés et si pertinents lui venaient à l'esprit? Nous ne saurons jamais répondre exactement. Invoquer la longue expérience de Dolto serait une réponse trop générale, non. Pour comprendre d'où vient l'inspiration, encore faut-il se placer au cœur de la relation entre Dolto et son petit patient et vous proposer l'hypothèse suivante. Mais avant de vous proposer cette hypothèse, je voudrais vous dire qu'au cours des séances, j'étais assis sur la chaise située dans le prolongement de la table. J'étais aux premières loges pour observer au plus près les manifestations et les silences du petit patient, mais aussi et surtout pour observer Dolto, son attitude corporelle, sa spontanéité si révélatrice de son art de parler à l'enfant. Voici donc l'hypothèse en question. Je pense que les mots inspirés jaillissent chez Françoise lorsqu'elle réussit à se concentrer et entrer émotionnellement dans la scène imaginaire qui accable l'enfant. Que vais-je dire ? Que tout en maintenant l'échange avec l'enfant présent dans la séance et au-delà avec nous, les groupes d'analystes participants, Dolto ressent consciemment l'émotion qui rend malade l'enfant. C'est à ce moment que Dolto s'adresse à son petit patient et lui montre avec des mots suggestifs, vrais et compréhensibles, l'émotion qu'il vit sans savoir qu'il la vit. Or, quand elle parle à l'enfant, elle lui parle avec cette voix inimitable qui était la sienne. Une voix pleine, claire, vibrante, qui touche aux larmes, qui éveille, remue et apaise. une voix portée par la conviction de dire ce qu'elle a à dire et de lui dire à temps. Ce sont ces mots simples et résonnants que je tiens pour les meilleures interprétations psychanalytiques, c'est-à-dire des mots susceptibles de modifier le rapport du patient avec lui-même, fût-il un bébé.
On va prendre tout de suite une très jeune auditrice puisqu'elle a 8 ans. Alors d'abord, elle vous dit, je vais vous lire sa lettre hein, parce qu'elle est très courte. Elle dit, j'espère que tu vas bien, Françoise Dolto. Ma famille et moi, nous allons bien. J'ai 8 ans. J'ai 2 sœurs. Elles font que de m'embêter. Elles se moquent de moi que je fais au lit. Le médecin a dit que c'était une maladie. Il m'a même donné des cachets pas pour faire. Ma sœur fait que de me faire gronder par mon père. Mais quand je la fais gronder par mon père, après, elle me tape. Je vous souhaite une bonne et heureuse santé.
Merci enfin, beaucoup.
Je pense qu'elle attend quand même une réponse de votre part sur ces problèmes de
Eh bien, de pipi. Le docteur a dit que c'était une maladie et je crois que le docteur s'est trompé. C'est pas une maladie. C'est un petit défaut et qui veut dire qu'on est encore enfant. Alors qu'elle n'oublie pas de se mettre un verre d'eau à côté de son lit le soir et puis qu'elle apprenne à donner des crocs en jambes. Parce que quand on est tapé par une grande sœur et qu'on est petite, alors ce qu'il faut faire, c'est tout d'un coup, on se précipite par terre avec les deux pieds, avec les deux mains, on tire sur les pieds de la grande sœur qui tombe par terre, ou bien on donne un croc en jambe en passant en douce, pas quand elle ne la tape pas, uniquement quand la grande sœur la tape. Voilà.
Bon, bah écoutez.
Et je me porte bien moi aussi et je lui souhaite une bonne santé.
L'inconscient. France Inter présente son premier podcast interactif avec le docteur Nasio.
Voici maintenant quelques exemples des mots remarquables que j'ai recueillis dans mon cahier bleu durant les années de la consultation. Je vous rappelle que j'avais l'habitude de m'asseoir sur la première chaise à droite située exactement à la hauteur de la table. De toutes les paroles de Dolto que j'ai notées, j'en ai sélectionné quelques-unes que voici. Je dois vous dire, j'ai un grand plaisir de vous les transmettre. En s'adressant à un enfant qui n'avait pas apporté le petit caillou qui lui servait pour payer la séance, elle lui précise « Je ne te verrai pas la prochaine fois si tu n'apportes pas ton caillou. Tu veux que ce soit par amour pour toi que je te donne cette séance ? Eh bien, non !» Voilà Dolto qui rappelle qu'un psychanalyste ne travaille pas par amour pour la personne de son patient. Certes, nous aimons nos patients, mais nous ne nous attachons pas à leur personne. Sans doute, un psychanalyste travaille par amour, mais par amour de ce qu'il a à faire. Aller vers l'autre, plonger à l'intérieur de lui, saisir l'anomalie qui le fait souffrir, la traduire en paroles, dédramatiser le conflit et obtenir le soulagement de celui qui s'est confié à lui. C'est là le sens de la mission pour laquelle il est payé et c'est là aussi qu'il connaît la joie de l'œuvre accomplie. Une joie qui ne se réduit pas à une simple satisfaction d'amour propre, mais au sentiment intime d'avoir agi comme il le fallait, d'avoir favorisé la réconciliation du patient avec lui-même. Un autre exemple. En s'adressant à un bébé de 10 mois assis sur les genoux de l'assistante maternelle et qui se montrait étonnamment habile de ses mains en pétrissant un bout de pâte à modeler, Dolto compatit. C'est très dur d'être bébé quand on est intelligent. En parlant ainsi, Dolto dissocie l'immaturité d'un bébé et le formidable savoir intuitif qu'il possède et le dépasse. Dans le même esprit, mais cette fois, en s'adressant à un garçon de 3 ans, elle lui dit « Je trouve que tes mains sont très malignes. Elles savent faire un poisson, même si tu ne sais pas que c'est un poisson. Tes mains savent dessiner toutes seules des formes que tu ne connais pas. » Ce type d'intervention est très fréquent chez Dolto. Elle isole une partie du corps, ici les mains, lui attribue une intention, bonne ou mauvaise, et quand elle est mauvaise, comme par exemple la main qui frappe, la bouche qui mord ou les pieds qui tapent, la personnification de la partie détachée du corps permet au thérapeute de s'adresser à l'enfant sans l'accuser, sans l'humilier ou le culpabiliser. En voici une illustration. Ce n'est pas toi qui as griffé ton frère, c'est ta main. Il ne faut plus laisser ta main faire tout ce qu'elle veut. Un autre exemple. En s'adressant à une petite fille de 2 ans, victime d'une tentative de meurtre et qui semblait engourdie, Dolto lui intime vigoureusement « Puisque tu as décidé de vivre, il faut maintenant que tu vives pleinement. » Et à un autre moment de la séance, comme pour exciter le désir de vivre de la petite fille, Dolto lui lance « Est-ce que c'était bien que tu sois né ?» Vous voyez, dans ces 2 interventions, Dolto réveille et renforce la partie du moi de l'enfant qui tient à la vie. À une petite fille muette qui tourne en permanence la langue dans sa bouche, Dolto interprète « Peut-être que la difficulté avec ta langue, c'est que tu veux parler le grec, comme ton papa le parlait. » Remarquez l'acuité avec laquelle Dolto observe chaque geste. Pour elle, le moindre mouvement du corps devient important parce qu'il peut la conduire à mieux capter l'inconscient de l'enfant. Que la petite fille tourne la langue dans sa bouche signifie pour Dolto que le père absent, le père grec donc, est cependant toujours là, présent dans sa bouche. Enfin, dernier exemple, peut-être le plus beau. Lors d'un premier entretien avec un petit garçon de 3 ans, je n'oublierai jamais cet exemple. Celui-ci lui demande « Et toi, tu t'appelles comment ?» Et elle de répondre « Je m'appelle François Dolto. » Je suis psychanalyste et je dis la vérité de la vie aux enfants. Quelle conviction, quelle fervente conviction. Je voudrais maintenant conclure en évoquant avec vous les différentes Françoise Dolto que je garde présentes dans mon travail et dans ma vie. Dolto, psychanalyste, qui s'est plongé en silence dans l'inconscient de son petit patient pour le délivrer de sa souffrance. Dolto, maître, qui nous encourage à faire confiance à notre ressenti d'analyste et nous montre l'humilité de devoir toujours apprendre. Et enfin, Dolto, ami, qui s'inquiète et qui a peur. Oui, peur. Combien de fois, sur le chemin qui nous conduisait à la rue Cujas, m'a-t-elle surpris dans la voiture, parce que j'allais la chercher le matin, tous les vendredis, j'allais la chercher. Donc, je l'amenais avec moi et d'ailleurs, à cette époque, elle avait des tubes d'oxygène parce qu'elle souffrait déjà d'un problème des poumons. Donc, on mettait les tubes dans le coffre et elle était avec moi à la place du passager. Et donc, elle m'a surpris dans la voiture en me confiant son trac d'engager une nouvelle matinée des consultations. C'était pas possible. Ce trac est étonnant si l'on pense qu'à cette époque, Dolto avait 78 ans et une vie entière de pratique. Ce trac était probablement l'un des secrets de sa réussite de thérapeute. Son inquiétude devant l'épreuve de la consultation s'est transformée en un puissant désir d'aller vers l'enfant, s'est transporté à l'intérieur de lui, coïncider avec ce qu'il a d'unique et lui parler. La peur devient désir et le désir se fait parole. Voilà l'hommage venu du cœur que j'ai voulu rendre à une femme exceptionnelle dont la voix me parle toujours. Un peu de musique maintenant et je répondrai ensuite aux questions que vous m'avez adressées sur notre page L'Inconscient.
À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Entendre ton rire qui les arde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot, les bons becs fabuleux. Compliqué chez le marchand, car en sac et minto, caramel à 1 franc. Et les Mistral gagnants. À marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu, et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer, et entendre ton rire comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière, te raconter surtout les carambars d'antan et les cocos boères, et les frères au doudou qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents. Et les Mistral gagnants. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder le soleil qui s'en va. Te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous. Te dire que les méchants c'est pas nous. Si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux. Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie et l'aimer même si le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants et les Mistral gagnants. Et les Mistral gagnants.
L'inconscient avec le docteur Nasio sur France Inter.
Chers auditeurs, c'est vous qui avez maintenant la parole. Je vous écoute.
Bonjour monsieur Nasio. Je suis moi-même psychologue psychanalyste et à propos de votre émission, je voudrais d'abord vous dire combien vous réussissez à transmettre émotionnellement la force du désir de Dolto. De plonger dans le vécu que ressentait le petit patient, ce désir de le délivrer de ce qu'il faisait souffrir. Pourriez-vous revenir sur les différentes manières dont un enfant s'exprime en séance? Et pourriez-vous rappeler comment le petit patient fait parler ce qu'il anime inconsciemment durant la séance et ce que peut capter le thérapeute? Je vous remercie de votre réponse.
Merci de votre question. Ça permet que tous les auditeurs viennent à notre cabinet, qu'ils s'assoient à côté de moi et ils voient comment je travaille avec les petits enfants. J'utilise une petite table. Je fais, comme je dis toujours, décor enfant, décor adulte. Quand il y a les enfants, je sors la petite table, je mets mon fauteuil toujours à sa place, et de l'autre côté, il y a un tabouret où s'assoit l'enfant. Quand le patient, le petit patient, est assis devant moi, pour moi, tout est parole de l'inconscient. Tout. L'inconscient est tout le temps là. Le regard, les clignements des yeux, le mouvement de la bouche. Je vous ai parlé tout à l'heure avec Dolto, que Dolto observait par exemple la petite fille qui bougeait la langue à l'intérieur de la bouche. Et c'est formidable. Il ne faut pas oublier aussi les pieds, les jambes. Les enfants bougent beaucoup les jambes quand ils sont assis. Ou bien, pour revenir au visage, ils sortent la langue quand ils dessinent, pour dessiner bien. Vous avez vu comme nous faisons, nous, quelquefois. On fait même des gestes. On gesticule la bouche pour que la main dessine exactement ce qu'on veut et marque l'effort mental qu'on fait à ces moments-là. Et c'est, les enfants ont cette innocence de se montrer tels qu'ils sont. Et moi, je suis là pour observer avec ma plus forte disponibilité. Et effectivement, il y a tout ce qui est verbal, donc tout ce qu'il dit, et puis tout ce qui est non-verbal. Aussi, comment il dessine, là, l'inconscient va apparaître, comment il fait les modelages avec la pâte à modeler, sa manière de bouger dans la chaise, tout ça compte. L'inconscient, c'est ce qui est, qui n'est pas présent. C'est ce que je déduis de ce qui est présent. C'est ça l'inconscient.
Docteur Nasio, bonjour. C'est Valérie de Paris. J'avais une question concernant la petite Aïcha gravement psychotique dont vous parlez et sa guérison par les paroles de Françoise Dolto. Est-ce que c'est uniquement les paroles ou est-ce un éventuel traitement médicamenteux dont ne vous parlez pas aurait pu aussi participer à la guérison? Qu'est-ce qui relève en fait du traitement médicamenteux et qu'est-ce qui relève de la psychanalyse dans la guérison des patients?
Non, pour Aïcha, il n'y avait pas de médicaments. C'est ça qui est extraordinaire. C'est pour ça que je parle du secret de Dolto. Dans la communication avec un enfant aussi gravement atteint que Aïcha, non, il n'y avait pas de médicaments et Dolto avait réussi. Cela étant, il m'arrive, moi, psychiatre que je suis, de prescrire des médicaments à certains de mes patients que j'ai en analyse. Le médicament n'est pas en contradiction avec l'analyse. Il faut savoir prescrire de manière intelligente, prudente, voir comment les patients prennent les médicaments, on ne le prend pas, accepte ou n'accepte pas. Il y a des patients qui n'acceptent pas la médication. C'est toute une gestion de la relation de médication et analyse. Mais sachez que, oui, j'ai quelques patients qui suivent l'analyse et en même temps, je leur ai prescrit des médicaments.
Merci beaucoup, docteur Nasio, pour votre podcast. Au sujet du podcast sur Françoise Dolto, je voulais savoir quelles consignes elle donnait aux enfants pour commencer à dessiner. Merci beaucoup.
Et Dolto a eu l'idée géniale de demander à l'enfant non pas de dessiner un objet, mais de dessiner un sentiment. La formule « dessine ton rêve », maintenant, c'est banal. On l'a fait même en publicité. Mais c'était Dolto la première qui a lancé cette façon de la consigne à l'enfant de lui dire « dessine ton rêve ». Ou bien « dessine ta famille ». Pour que l'enfant exprime à travers son dessin la manière de se sentir dans sa famille, c'est-à-dire de sentir ou non l'appartenance à la famille. Il y a des enfants qui dessinent la famille, mais ils ne se dessinent pas eux. ou l'inverse, il y a des enfants qui dessinent eux avec leur maman, mais pas la famille, pas le reste de la famille, ni le père, ni les frères, ni les sœurs. Et c'est très intéressant le dessin et la manière de lui demander à l'enfant de dessiner. Quelquefois, on ne demande pas de dessiner. Je mets les feutres, je mets les feuilles, je mets de la pâte à modeler, je mets une petite boîte. Parfois, il n'y a pas besoin de lui dire « dessine ton rêve ». Lui-même, il commence à dessiner. Et ça dépend de l'âge, bien entendu. Une chose avant que je passe à une autre question, n'oubliez pas une chose importante. Un dessin n'a pas de valeur s'il n'y a pas une parole qui l'accompagne. Il faut toujours une parole. Il faut que le dessin soit accompagné d'une parole d'abord de l'enfant ou du thérapeute. Mais il faut qu'il y ait la parole, qu'il soit parlé. Et nous poursuivons, chers auditeurs, avec les questions que vous m'avez laissées sur notre site L'Inconscient.
Bonjour, c'est Marianne. Merci encore, Monsieur Nazio, de dire que le travail avec les enfants est beaucoup plus exigeant. Merci aussi à Françoise Zolto qui a pu ouvrir les portes pour le jeune enfant, pour personnifier l'enfant. Je suis infirmière puéricultrice et je suis scandalisée que depuis la rentrée, il ne soit plus exigé du tout de diplôme pour travailler en crèche. Que penser du travail auprès des jeunes enfants et de leurs familles sans aucune formation, que ça soit au niveau du développement psychomoteur, la théorie d'attachement? Les adultes connaissent très très bien les professionnels de santé pour les adultes, mais une grande partie de la population ne connaît pas du tout ceux qui gravitent autour du jeune, de l'enfant en général. Merci pour votre émission et à bientôt.
Merci pour votre rappel qui va dans le sens de ce que j'essaye de faire passer avec nos émissions. Je voudrais que, avec nos émissions, vous sentiez qu'effectivement, pour s'occuper d'une personne qui souffre, que ce soit un malade, enfant ou adulte ou âgé, il faut être professionnellement formé. Il faut d'abord une analyse personnelle. On ne peut pas travailler avec des sentiments et des émotions chez l'autre si soi-même, on ne les connaît pas les siennes, numéro un. Numéro deux, il faut beaucoup étudier. Et si vous vous occupez des enfants, effectivement, comme vous l'avez très bien dit, madame, il faut connaître l'évolution physique et psychologique d'un enfant, dès la naissance à l'adolescence, ainsi que l'évolution au niveau d'une famille. Il faut savoir comment fonctionne un groupe familial. Il faut étudier beaucoup. J'insiste beaucoup sur ça. Notre profession est une très belle profession. C'est merveilleux. Vous savez, j'ai une chance inouïe de faire ce métier. Mais ce métier exige une très bonne formation. Et puis, il faut être authentique quand vous communiquez avec l'enfant. Ça ne s'apprend pas dans les livres. Ça, je vous le dis, c'est à chacun de vous de savoir que l'essentiel, c'est de travailler avec votre authenticité.
Bonjour. Y a-t-il une méthode, Françoise Zolto, pour essayer d'aider les enfants qui sont dépressifs ou qui sont harcelés? Est-ce qu'on peut appliquer cette méthode avec les problèmes d'aujourd'hui?
Il n'y a pas, à proprement parler, une méthode Zolto à appliquer selon un protocole précis, quelle que soit la pathologie de l'enfant ou le problème de l'enfant. Il y a un style Zolto marqué par la présence de la personne du thérapeute. La grande particularité de Zolto, c'était de parler à son interlocuteur, qu'il soit sain ou malade, enfant ou adulte, avec un aplomb étonnant. Elle avait la capacité remarquable de se concentrer pour être avec le patient qui lui parle. C'est cela le style Zolto, une intelligence, une chaleur, une expérience, un savoir et une profonde conviction.
Oui, bonjour. Je souhaiterais réagir à une phrase qu'a mentionnée le docteur Nasio dans son émission sur Françoise Dolto. À un moment donné dans l'émission, Madame Dolto reçoit une petite fille en thérapie et elle dit à cette petite fille de continuer son dessin et pour ce faire, elle lui dit « chacun doit faire ce qu'il a à faire ». C'est une phrase qui m'a beaucoup fait réfléchir, notamment par rapport à la relation que j'entretiens avec mes enfants qui sont petits. Et j'aurais aimé savoir en fait ce qui se passe dans l'esprit de l'enfant quand on leur dit ce genre de phrase. Et si ça peut aider en fait à leur faire comprendre qu'ils sont leurs propres personnes en ayant leurs propres activités et en menant de front voilà leurs actions vraiment de leur côté individuellement. Voilà, et dans la tête de l'enfant, comment en fait se répartit le collectif et l'individuel? J'ai l'impression que ce sont des limites qui ne sont pas très claires et peut-être à partir de quel âge on a cette conscience de ne pas appartenir à un groupe de famille, mais vraiment à être un individu au sein de la famille. Voilà, merci par avance. Et docteur Nasio, merci beaucoup de votre émission. Tout est très clair et très intéressant.
Oui, merci de votre question. Effectivement, je me souviens très bien de cette phrase de François Dolto, un peu de façon comme Dolto avait quelquefois des paroles un peu tranchées, un peu dures, mais elle était comme ça. Et elle disait, bon, écoute, chacun a affaire à ce qu'il a à faire. Elle était presque à la limite de l'agacement. Eh bien, ça, il faut savoir que cette phrase est dite comme une interprétation destinée à un enfant malade. Il fait le bébé et donc il demande tout le temps. Cependant, vous avez raison, madame, d'élargir la portée de cette phrase non seulement à l'enfant qui est malade, mais à tous les enfants pour les aider à devenir indépendants. Et il n'y a pas de plus belle image que dans un salon, on voit la maman en train de s'occuper, en train d'écrire ou que sais-je, et à côté, l'enfant en train de faire ses devoirs. C'est magnifique, ça. Chacun au silence. Eh bien, c'est exactement ça. Je fais, moi, ce que j'ai à faire, et toi, tu fais ce que tu as à faire. C'est la meilleure compréhension, la meilleure communication à travers le silence entre deux êtres qui s'aiment et qui sont proches. Merci pour vos questions qui nous ont permis de rendre plus vivant encore notre hommage à cette grande figure de la psychanalyse française qui fut François Dolto, mon maître et mon indéfectible ami. Il est l'heure de nous quitter. Je voudrais remercier Audrey Ripouille pour la réalisation de notre émission et des podcasts, ainsi que Ludovic Asselot à la technique. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 15h. D'ici là, je vous invite à aller sur la page L'Inconscient sur franceinter.fr. Vous pourrez découvrir nos prochains épisodes déjà en ligne. Merci d'écouter ces podcasts et s'ils vous inspirent, n'hésitez pas à me faire parvenir vos questions. J'y répondrai avec plaisir dimanche prochain. Je vous souhaite à tous une excellente semaine.